Iana est une jeune Américaine qui ne rentrera jamais de l'école. Sa famille, inquiète, va tout mettre en œuvre pour la retrouver. Mais parfois, il est inutile de chercher bien loin. Combien de familles ont un loup déguisé en agneau qui se cache parmi elles? Découvrez aujourd'hui la triste histoire d'Iana Sawyer. Direction Jacksonville, dans l'État de Floride, aux États-Unis. Nous allons aller à la rencontre de la brillante Iana Sawyer, une belle adolescente de 16 ans. Elle est scolarisée au lycée Terry Parker et c'est une élève particulièrement studieuse. Elle est du genre déterminée et est de ceux qui se donnent à 400% pour atteindre leurs objectifs. Et l'un de ses objectifs, l'un de ses plus grands rêves, c'est plus tard d'avoir une belle et grande famille, mais pas que. Elle rêve aussi d'avoir une grande carrière. Et il n'y a pas 36 solutions pour mettre toutes les chances de son côté, comme elle aspire à devenir médecin ou avocat. Elle doit nécessairement réussir ses études. Et elle est si douée que du haut de ses 16 petites années, elle a déjà sauté une classe, mais pas que. Elle a même d'ores et déjà décroché plusieurs bourses pour poursuivre ses études à l'université l'année suivante. Alors autant vous dire que le diplôme de fin d'année ne sera qu'une simple formalité pour elle. Elle a aussi de la chance de faire partie d'une grande famille aimante et soudée. Elle est entourée d'amour et est tout particulièrement proche de sa mère, Kimberly Mobley, ainsi que de ses deux petits frères et sœurs pour qui elle est un véritable modèle. Mais Iana a aussi l'intelligence du cœur. Elle est douce, gentille, elle aime faire rire les autres. Elle fait toujours tout son possible pour rendre les autres heureux. Et ses choix de carrière ne sont d'ailleurs pas dus au hasard. Ce qu'elle veut, ce n'est pas que réussir, c'est aussi et surtout aider les autres. Et au moment des faits, en décembre 2018, elle est déjà prête pour ses examens qui doivent avoir lieu très bientôt, juste avant les vacances de Noël. Mais il n'y a pas que les examens qui stressent Iana. La pauvre cache un lourd secret. Elle est enceinte et elle ne sait pas comment le dire à sa mère. Elle va néanmoins rassembler tout son courage le 3 décembre 2018 pour lui annoncer. Et c'est un véritable choc pour la maman. Elle est furieuse et elle l'est d'autant plus lorsqu'Iana lui dit qu'elle veut garder le bébé. Kimberly a peur pour son avenir, mais Iana est une fille intelligente. Mais quand bien même, elle se doute qu'en devenant mère aussi jeune, il sera difficile pour elle de suivre une scolarité normale. Mais la décision de garder l'enfant est une décision irrévocable pour Iana. Elle a pris cette décision le jour où elle a senti le petit ange bouger dans son ventre. Et Kimberly se dit que la seule chose qu'elle peut faire, c'est épauler sa fille du mieux qu'elle le peut. Alors elle lui prend sans attendre rendez-vous chez le gynécologue afin de s'assurer que le bébé va bien. Mais en attendant ce rendez-vous, Kimberly ne peut s'empêcher de se demander qui est le père. Sa fille n'a à sa connaissance aucun petit ami, mais elle a peur. Elle redoute que le père ne soit Kamar Humphrey, leur voisin âgé de 20 ans qui avait eu des relations intimes avec Iana début 2018. C'était il y a un an de cela. Ça l'avait rendue furieuse qu'un homme comme lui s'en prenne à une jeune adolescente. Elle n'avait pas hésité à le traduire en justice et il avait été condamné. Et ça avait d'ailleurs refroidi Kamar qui ne s'était, en tout cas à sa connaissance, plus approché de sa fille. Mais selon ses calculs, Iana a dû tomber enceinte vers juillet ou début août, et c'était pile alors qu'elle était en vacances en Géorgie chez ses grands-parents. Alors elle se dit que c'est probablement le fruit d'un amour de vacances. Mais n'en pouvant plus, 3 jours après l'annonce, elle s'en va poser la question à sa fille. Et Iana lui répond que c'est un certain José, ce qui conforte Kimberly dans l'idée que c'est bien un amour de vacances, c'est toujours mieux que le voisin pervers. Puis arrive le jour du rendez-vous chez le gynécologue, c'est le 13 décembre 2018. Iana et sa mère apprennent que la jeune fille est enceinte de 22 semaines, c'est tout de même 5 mois, et que c'est une petite fille. Et Iana avait déjà choisi le prénom, elle s'appellera Hazel Mitchell. Et lorsque le reste de la famille a appris la nouvelle, forcément, ils étaient eux aussi très surpris, mais passé le moment du choc, on va dire, tous avaient hâte d'accueillir la petite Hazel Mitchell. Tous considèrent que cette grossesse est finalement un cadeau inattendu. Rappelons que nous sommes à seulement quelques jours de Noël. Ce qui nous amène au 19 décembre. Ce jour commence comme tous les autres pour la petite famille. Kimberly se rend comme à son habitude à son travail. Quant à ses deux filles, Iana et Simia, elles prennent la route pour l'école. Et d'ailleurs, je précise que Simia a 3 ans de moins qu'Iana et que c'est là un prénom d'emprunt puisque son identité n'a jamais été révélée dans la presse, même si son visage, lui, l'a été. La journée passe, mais en rentrant, en montant dans le bus scolaire, Simia se rend compte que sa sœur n'est pas là. Or, les deux sœurs ont l'habitude de prendre ce bus pour rentrer chez elle. Alors une fois de retour à la maison, elle appelle sa mère au travail pour le lui dire. Et Kimberly est un peu inquiète. Mais elle se dit que ce n'est sûrement rien et elle décide de ne pas quitter son travail pour si peu. Elle se dit que sa fille a sûrement été raccompagnée en voiture par une amie, mais dans le doute, elle va tout de même essayer de la joindre sur son téléphone portable. Et malgré ses nombreuses tentatives, elle tombe à chaque fois directement sur le répondeur. Elle appelle alors des membres de la famille pour voir s'ils ont vu Iana, mais personne ne l'a vue. Et comme la tante d'Iana, Jametta Mobley, habita seulement 10 minutes du lycée d'Iana, elle décide de s'y rendre sans attendre pour voir si elle y est encore ou pour voir si quelqu'un sait où elle est. Elle parcourt alors le lycée et interroge les élèves qu'elle croise, mais malheureusement, personne n'a vu sa nièce. Plus tard, c'est cette fois Margie Mobley, une autre sœur de Kimberly, et donc l'une des tantes d'Iana, qui s'y rend. Mais là encore, personne ne semble l'avoir vue. Et lorsqu'elle apprend ça, Kimberly quitte immédiatement son travail pour se mettre à la recherche d'Iana. Elle la cherche partout, mais sans succès. Et là, c'est la panique totale. Kimberly connaît très bien sa fille. C'est une jeune fille responsable, qui n'est pas du genre à s'absenter sans donner de nouvelles, et elle est encore moins du genre à fuguer. À ce moment, elle se dit que quelque chose de grave est sûrement arrivé, et ses sœurs sont du même avis, et l'une va appeler immédiatement le 911. Et voici un extrait. Jacksonville 911, quel est le lieu de votre urgence? Ça va directement sur répondeur, et son téléphone ne va jamais sur répondeur. Pour être clair, pensez-vous que c'est là un acte criminel? Non, madame, je n'ai aucune idée. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas dans ses habitudes. Et pour ne pas rester là à rien faire, Kimberly, Jametta, Simia et le frère d'Iana décident de fouiller la chambre qu'elle partage avec sa sœur dans l'espoir de trouver un indice sur l'endroit où elle pourrait bien se trouver. Et c'est ainsi que Kimberly se rend compte que certains de ses vêtements ont disparu. Et entre autres, des sous-vêtements Victoria's Secret. Elle en est sûre, car mère et fille avaient acheté le même ensemble lors d'une promotion pour la Saint-Valentin. À ce moment, Kimberly se dit que Iana a probablement fui la maison pour retrouver, sans doute, José, le père de son enfant. Et en parallèle à tout ça, les policiers ne perdent pas un instant et ils se mettent au travail. Ils vont dans un premier temps jeter un œil aux images des caméras de surveillance du lycée. Et ils découvrent qu'Iana a quitté le lycée vers 11h du matin ce jour-là. On peut la voir sur les images, elle porte un sweat à capuche blanc, un jean de couleur claire. Et détail troublant, elle a 2 gros sacs avec elle. Mais ce n'est pas tout. Autre chose de troublante. On peut la voir vers 10h45-10h50, juste avant qu'elle ne quitte l'établissement, à la cafétéria en grande conversation avec sa petite sœur. Et leur langage corporel a l'air d'indiquer qu'elles sont en train de se disputer. Alors ils s'en vont demander à Simia pourquoi elle s'est disputée avec sa sœur, mais Simia explique qu'il n'y a eu aucune dispute. Qu'à cela ne tienne, les policiers vont ensuite interroger les camarades de classe d'Iana, et ça va payer, puisque l'une de ses copines, l'une de ses plus proches copines d'ailleurs, explique aux policiers que le jour même de la disparition, elle lui a confié qu'elle allait passer 2 semaines avec un homme du nom de Jonathan Keyes. Et lorsque la famille apprend ça, c'est le choc, puisque ce Jonathan Keyes, 34 ans, n'est autre que l'oncle d'Iana. Il est marié depuis 5 ans à Naomi, une autre sœur de Kimberly, et le couple attend même leur 2e enfant. Et il faut savoir que Naomi est chauffeur poids lourd, et comme elle a de longues journées de travail, elle se lève très tôt le matin et rentre souvent très tard le soir. Alors Iana et sa sœur étaient souvent appelées en renfort pour garder leur enfant de 3 ans. Sans compter toutes ces fois où Naomi devait s'absenter plusieurs jours pour son travail, et dans ces cas-là, et pour aider Jonathan qui s'était cassé le fémur l'année précédente, il arrivait aux sœurs de venir passer plusieurs jours à la maison. Elle dormait alors sur le canapé du salon, et parfois, Iana y allait seule. Alors c'est la stupeur, Tous se disent que ce n'est pas possible. D'ailleurs, lui n'a pas disparu, il est rentré tranquillement après le travail. Mais il y en a une que ça n'étonne pas vraiment. C'est Jametta, la tata. Au début, elle aimait bien Jonathan, mais avec le temps, elle avait commencé à trouver son comportement étrange vis-à-vis d'Iana. Il la regardait de manière malsaine, alors elle s'était mise à l'éviter, ne le croisant qu'aux réunions de famille. En plus de ça, Jametta n'avait pas pu s'empêcher de faire le calcul. Iana est sûrement tombée enceinte à peu près au moment de l'anniversaire de sa mère, donc de la grand-mère d'Iana. Et devinez qui était là à cette période de fête ? Eh bien, Jonathan. Alors, sans savoir tout ce qu'elle a appris, elle n'avait pas pu s'empêcher de le suspecter d'être le père de l'enfant. Puis elle avait chassé cette idée de sa tête. Mais elle n'était pas la seule à ne pas aimer Jonathan. Il s'avère que sa propre mère, donc la grand-mère d'Iana, Wilena Haynes, n'apprécie pas non plus son gendre. Au début, elle aussi, elle l'aimait bien, c'était un peu le tonton cool et jeune d'esprit qui avait l'air de bien s'entendre avec ses petites filles. Mais en 2018, lors du dîner de Thanksgiving organisé par son autre fille, Paula, alors qu'elle s'était éclipsée de la maison pour aller prendre l'air dans le jardin, elle avait vu Jonathan prendre Iana dans ses bras. Mais pas comme un oncle prendrait sa nièce dans ses bras, non. Plutôt comme le ferait un couple. Et quand Jonathan l'avait aperçu, il avait immédiatement lâché Iana. C'est à partir de ce moment qu'elle a commencé à se méfier de lui. Et elle avait même conseillé à Kimberly de ne plus le laisser s'approcher de ses filles. Et en plus de Jametta et de Wilena, d'autres membres de la famille avaient eux aussi commencé à se poser des questions. Alors début 2018, ils avaient décidé de faire part de leurs doutes à Naomi, sa femme. Naomi en était presque tombée de sa chaise. Elle n'avait rien remarqué. Elle a expliqué que si tel était le cas, elle demanderait immédiatement le divorce. Alors dans le doute, elle avait demandé à ses nièces si son mari s'était un jour mal comporté avec elle. Elle les avait rassurées. Elle leur avait expliqué qu'il pouvait lui dire la vérité. Mais les deux adolescentes l'avaient à leur tour rassurée. « Quoi ? Comment ça ? Tonton Jonathan ? Mais pas du tout, tata, voyons, ne t'inquiète pas. » Et sachez d'ailleurs pour la petite histoire que Naomi avait découvert sa grossesse en juin 2018. Ce qui veut dire que nièce et tante étaient tombées enceintes à peu près au même moment. Et autre anecdote encore. Lorsque Kimberly, la maman, avait appris l'existence de José, l'amour de vacances, et donc père de l'enfant de sa fille, le soir même, elle en avait parlé dans le chat dans lequel certains membres de la famille avaient l'habitude de discuter. Voilà, elle voulait prévenir tout le monde. Mais Jametta n'avait pas pu s'empêcher de lancer pour plaisanter que non, ce n'était pas José le père, mais tonton Jonathan. Ce qui avait mis Naomi dans une colère folle. Non et non, elle avait répondu que si quelqu'un avait un doute, eh bien qu'il fasse passer un test ADN à Iana. Après tout, il n'est pas nécessaire d'attendre une naissance pour le faire. Et comme ça, enfin, ils allaient arrêter de plaisanter là-dessus. Mais tout le monde avait ensuite rassuré Naomi en lui disant que ce n'était qu'une blague et tout s'était passé à autre chose. Alors quand les policiers ont appris tout ça, sachez que ça leur a demandé plusieurs jours le temps d'interroger les uns et les autres. Et bien sûr, et malheureusement tout ce temps, l'adolescente était toujours portée disparue. Donc les enquêteurs décident à ce moment de se focaliser en toute logique sur Jonathan. 8 jours après la disparition, le 27 décembre, ils se rendent donc chez Jonathan et Naomi afin de les interroger plus en détail, et surtout Jonathan. Et il demande à Jonathan s'il sait où se trouve Iana. Il répond que non, et qu'il serait d'ailleurs le premier à la ramener chez elle s'il savait où elle était. Il leur dit qu'il est inquiet, comme tout le monde, et ajoute même qu'il passe son temps à consulter son téléphone dans l'espoir de recevoir de ses nouvelles. Quand les enquêteurs lui demandent s'il connaît l'identité du père de l'enfant qu'attend Iana, il répond que non. Il insinue même que sa nièce est plutôt volage, puisqu'il explique qu'après tout, elle a eu nombre d'amoureux, alors difficile de savoir. Puis les enquêteurs passent à la vitesse supérieure et lui font part des doutes de plusieurs membres de la famille, la tante, la grand-mère, etc. Ce à quoi Jonathan répond qu'il n'a jamais eu de relation intime avec sa nièce, qu'il n'est absolument pas le père de l'enfant et que s'il est accusé de la sorte par certains, c'est parce qu'ils veulent semer la zizanie dans son couple, parce qu'il ne l'apprécie pas. Les policiers lui demandent alors ce qu'il faisait la journée du 19 décembre 2018, au moment de la disparition d'Iana, et Jonathan leur répond qu'il était au travail. Et d'ailleurs, il était effectivement au travail. Et lors de cette conversation/interrogatoire, Jonathan ne va avoir de cesse de parler des sous-vêtements disparus de sa nièce. C'est forcément un petit copain du lycée ou autre, et il en parle encore et encore. Bizarre, se disent les enquêteurs. Enquêteurs qui en viennent au fait et qui lui demandent de se soumettre à un test ADN. Ce que Jonathan va faire. Mais malgré ça, les jours passent et l'enquête ne progresse pas. Mais tout va basculer le mois suivant, en janvier, lorsque le frère de Jonathan, Joseph Kiyes, demande à parler aux enquêteurs. Il explique qu'il a des choses à leur dire. Il leur dit que son frère l'a appelé à 4 reprises le jour de la disparition d'Iana. Et lorsqu'enfin il a réussi à le joindre, il semblait soulagé. Et c'est lors de cette conversation qu'il lui a avoué être le père du bébé d'Iana. Jonathan lui a expliqué qu'il l'avait bien supplié de mettre un terme à sa grossesse, mais qu'elle avait toujours refusé. Il était désespéré, persuadé que la naissance de ce bébé ruinerait sa vie et qu'elle mettrait fin à son mariage. Et quand Joseph lui a demandé ce qu'il comptait faire, eh bien Jonathan lui a répondu qu'il s'était déjà occupé du problème. Alors intrigué, Joseph lui demande comment il a fait. Ce à quoi son frère lui a répondu l'avoir tout simplement tué. Il a expliqué l'avoir attiré à Ace Peak Apart, l'entreprise de vente de pièces d'auto et de camions d'occasion située à Jacksonville, entreprise où est employé Jonathan. Il a dit qu'il l'a attiré sous le prétexte de s'enfuir ensemble, puis il l'avait fait monter en voiture faisant mine de partir, voiture qu'il avait garée à l'arrière du bâtiment, à l'abri des regards et des caméras de vidéosurveillance. Puis il a dit qu'il avait tenté d'étrangler Iana, mais ne supportant pas de voir son visage, comme ça, à quelques centimètres de lui, il lui avait finalement tiré dessus, en pleine poitrine. Il a ensuite expliqué avoir enveloppé son corps avant de le jeter dans une benne à ordures. Il avait choisi une benne à ordures bien précise parce qu'il savait qu'elle serait vidée ce jour-là. Elle était pleine à ras-bord et quand les bennes à ordures sont pleines, elles sont vidées. Puis il explique avoir détruit le véhicule pour effacer toutes les traces. Et Joseph lui a demandé depuis combien de temps il avait planifié tout ça, ce à quoi Jonathan a répondu « depuis des mois ». Voilà, c'est tout ce qu'il sait. Alors les policiers demandent à Joseph pourquoi il n'est pas venu leur dire tout ça plus tôt, ce à quoi il a répondu qu'il ne croyait pas son frère. Il pensait à une mauvaise blague comme ça qu'il faisait traîner un peu, mais c'est seulement après avoir entendu un membre de sa famille dire en janvier, donc ce même mois, qu'Iana avait disparu, il ne le savait pas, qu'il a réalisé que tout ça était vrai et que même s'il aime son frère, il se devait de le dénoncer. C'était tout simplement inacceptable. Et voici d'ailleurs un message que Joseph a envoyé à son frère après avoir tout révélé à la police. Il a dit, je cite, « Je ne peux pas te parler maintenant. Je dois rester ferme sur ma décision. » Ce que tu m'as dit n'est pas une blague, n'est-ce pas? Donc ouais, je l'ai dit à la police parce qu'ils devaient le savoir. Si tu as menti, alors tu seras innocenté et libre. Et si tu n'as pas menti, tu ne le seras pas. Je suis désolée, mais je dois faire ce qui est juste pour cette fille et sa famille, pas ce qui est juste pour toi et ton égoïsme. Je déteste l'idée de te perdre, mais je préfère que cette fille soit en paix. Si tu es innocent, alors tu n'as rien à craindre. Ils ne retrouveront pas son corps, mais si tu es coupable, ils la retrouveront. Et dans ce cas, j'ai déjà perdu mon frère. Je suis désolée. Fin de citation. Mais les aveux du frère, en réalité, ne suffisent pas. Il faut aux enquêteurs des éléments de preuve. Et heureusement pour eux, il y a un grand nombre de caméras de vidéosurveillance au Ace Peak Park. Et grâce à elles, ils ont pu retracer les déplacements de Jonathan le jour de la disparition d'Iana. Et voici ce qu'ils ont découvert. Le 19 décembre 2018, le jour de la disparition, Jonathan est arrivé à 8h08 sur son lieu de travail à bord de son minivan rouge. Après avoir garé sa voiture dans le parking, il s'est mis au travail. Vers 11h17, son minivan rouge a été filmé quittant le parking de l'entreprise. Et il a quitté son poste sans l'autorisation de son employeur, Gary Lindros. Il n'a pas pointé sa carte de pointage, ce que les employés Days Peak Apart sont pourtant obligés de faire lorsqu'ils quittent leur poste. Et les policiers supposent que c'est pendant ce laps de temps que Jonathan est parti récupérer Iana. Il est revenu un peu plus tard, vers 12h30, mais il ne s'est pas garé sur le parking réservé aux employés, il s'est garé derrière. Et c'est là qu'il a emmené Iana, dans cet endroit, à l'abri des regards, pour la tuer. Après seulement 3 minutes, il a été filmé traversant le parking. Ensuite, il est entré dans un bureau dont il est ressorti rapidement avec du ruban adhésif rouge dans les mains. Et d'après l'employeur, Jonathan n'avait aucune tâche à exécuter dans le cadre de ses fonctions qui nécessitait l'utilisation de ruban adhésif. Puis Jonathan a quitté l'entreprise au volant de son minivan rouge à 17h09. Et Gary, le patron, a confirmé aux policiers que Jonathan pouvait accéder à des zones isolées de l'entreprise ainsi qu'à une benne à ordures. Voilà, les enquêteurs ont désormais assez d'éléments entre les mains, ce qui leur permet d'arrêter Jonathan le 8 janvier. Et cette arrestation va permettre de délier les langues. Simia, la petite sœur, Diana, va dans la foulée avouer à sa mère que Jonathan s'est bel et bien comporté de manière inappropriée avec Yana. Mais pas que, avec elle aussi. Elle va avouer à sa mère qu'Yana entretenait une relation secrète avec Jonathan depuis 2 ans et que c'est bien lui le père de l'enfant. Et elle explique que si elle n'a rien dit, c'est qu'Yana lui avait fait promettre de toujours garder le secret. Les enquêteurs vont bien évidemment essayer de trouver le corps d'Yana. Ils vont passer 16 jours à fouiller la décharge et c'est tout de même 5500 tonnes de déchets qui seront passés au peigne fin. Mais malheureusement, sachez-le, son corps ne sera jamais retrouvé. Néanmoins, les enquêteurs vont découvrir des preuves cruciales. Ils vont trouver dans cette décharge des livres scolaires provenant du lycée Terry Parker, le lycée Diana, ainsi que des sous-vêtements Victoria's Secret similaires à ceux que la jeune fille avait emportés avec elle le jour de sa disparition. Mais malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'ADN sur les dessous pour prouver qu'ils appartiennent bien à Yana. Derrière les barreaux, Jonathan a tout de même sollicité une libération sous caution, mais sa demande a été rejetée. Et sachez d'ailleurs que Naomi a soutenu son mari pendant un certain temps, mais elle a changé d'avis après l'avoir appelé alors qu'il était en prison. Elle lui a demandé de lui raconter ce qui s'est réellement passé, ce à quoi son mari lui a répondu qu'il aimerait bien lui dire la vérité, mais qu'il ne peut pas, parce que les gens pourraient se méprendre et déformer ses propos. Mais Naomi connaît quand même bien son mari et cette réponse vague va tellement la perturber qu'à un moment elle va se dire que s'il ne peut pas lui révéler la vérité, c'est sans doute parce qu'il est coupable. Elle a donc demandé le divorce 1 an après son arrestation. Elle a expliqué qu'au moment des faits, elle n'avait jamais rien vu qui aurait pu lui donner l'impression que Jonathan entretenait une relation avec sa nièce. Mais cependant, avec le recul, elle a tout de même admis que le comportement de Jonathan envers Yana était quand même suspect. Elle s'est peut-être voilée la face. Que toujours en 2019, alors que Jonathan était en prison en attendant son procès, il a été inculpé pour des faits remontant à 2017. Une jeune fille mineure dont l'identité a été protégée a affirmé que Jonathan avait abusé d'elle en décembre 2017 alors qu'elle passait la nuit à son domicile pour garder sa fille. La jeune fille n'avait évoqué l'incident avec sa mère qu'en 2018, soit 1 an après les faits, et c'est pour cette raison que Jonathan n'a été inculpé qu'en 2019. Jonathan a plaidé, sachez-le, non coupable. En règle générale, lors des procès aux États-Unis, les crimes ou condamnations passées de l'accusé ne sont pas évoqués. On fait ça pour garantir un procès équitable aux accusés. Néanmoins, les procureurs ont la possibilité de demander au juge l'autorisation de les révéler. Le procureur a donc demandé de pouvoir, lors du procès concernant Yana, de pouvoir parler de l'agression de 2017. La défense forcément s'est opposée à cette requête, mais finalement, le juge a tranché en faveur du procureur et lui a donné l'autorisation de révéler les antécédents de Jonathan. Et au moment où Jonathan allait être jugé, eh bien c'est la peine de mort qu'il risquait. Mais toujours en 2019, une réforme de la loi sur la peine de mort dans l'État de Floride était passée et elle permettait désormais un jury de recommander la peine capitale à 8 voix contre 4, alors qu'avant, les jurés devaient être unanimes. Le procureur, qui défend en quelque sorte Yana, on va dire l'État, a demandé au juge que cette nouvelle loi soit appliquée lors du procès de Jonathan. Bien évidemment, l'avocat de Jonathan s'y est opposé, arguant que l'application de cette loi serait inconstitutionnelle, puisque le meurtre présumé d'Yana avait eu lieu en 2018, donc avant. Mais une fois de plus, le juge a donné raison au procureur. Pas de bol pour Jonathan, c'est sa vie qu'il va jouer lors de son procès. Procès qui s'est ouvert le 14 septembre 2023. Sachez que Jonathan était tout sourire et détendu, comme s'il ne se rendait pas compte de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Au cours du procès, ses avocats ont insinué que Camar Humphrey, souvenez-vous, le voisin, était sûrement le fameux José, et que c'est d'ailleurs sûrement lui, le père de l'enfant d'Iana. Ils ont suggéré que c'était donc sûrement lui qui a assassiné Iana, ce qui a rapidement été balayé d'un revers de manche par le procureur, qui a pu prouver que Camar n'était pas à Jacksonville le jour de la disparition d'Iana. Puis les avocats de Jonathan ont demandé au juge d'empêcher le procureur d'utiliser le mot « victime » ou l'expression « scène de crime », car selon eux, Iana est toujours en vie et elle peut, après tout, rentrer à tout moment dans la cour. Ils ont aussi affirmé qu'un témoin avait bien vu Iana marcher le long de l'autoroute Phillips le 26 décembre, soit plusieurs jours après sa disparition, ce qui laisse penser, encore une fois, qu'elle serait toujours en vie. Ce à quoi le procureur a répliqué que le témoin en question avait fait une erreur de date et qu'il avait en fait vu Iana marcher le long de l'autoroute Phillips, mais c'était avant le 19 décembre. Puis, la petite sœur d'Iana est venue à la barre. Elle a expliqué qu'elle aussi a été victime d'abus de la part de Jonathan alors qu'elle n'avait que 13 ans. Elle a affirmé qu'elle n'avait rien dit à la police ni à sa mère car elle ne voulait pas repenser à tout ça, mais aussi parce qu'elle redoutait qu'il ne s'en prenne à elle. Elle a précisé qu'elle ne l'avait jamais dit à Iana non plus, car elle savait qu'elle était folle amoureuse de lui et qu'elle ne voulait pas la blesser. Et elle a expliqué aussi que lorsqu'elle se rendait chez Jonathan et Naomi pour faire du babysitting, Iana dormait dans le lit de sa tante avec son oncle lorsque Naomi était absente. Elle a déclaré aussi avoir vu Jonathan embrasser sa sœur sur le cou et les lèvres, et elle l'a aussi vu la toucher de manière inappropriée. Elle a aussi affirmé qu'un jour, alors qu'elle dormait sur le canapé avec sa sœur, Jonathan s'était glissé dans le lit à côté de sa sœur. Et pour elle, même s'il faisait sombre, il était évident, compte tenu des bruits et du fait que le canapé bougeait, qu'ils étaient en train d'avoir des rapports intimes. Elle a déclaré que la situation était très gênante et qu'elle a fermé les yeux et fait semblant de dormir. Elle a expliqué ce que tout le monde savait déjà, que le fameux José était en réalité Jonathan, et que lorsqu'Iana avait informé Jonathan de sa grossesse, il s'était mis en colère et il lui avait demandé d'y mettre un terme, ce qu'Iana avait refusé. L'avocat de Jonathan a tenté de discréditer Simia en prétendant qu'on ne pouvait pas la croire, puisqu'elle avait déjà menti à la police pendant son interrogatoire. Simia a aussi expliqué que sa sœur et elle communiquaient avec leur oncle via Snapchat parce que sur cette application, les messages disparaissaient automatiquement. Et des messages envoyés par Jonathan à Iana ont pu être retrouvés et certains messages sont particulièrement troublants. On pouvait lire « Je suis tellement amoureux de toi que je vais te tuer » et pleurer. Voilà. Un autre disait « Tu es coincé avec moi jusqu'à ta mort. Je t'aime tellement pour te laisser partir. » C'est Jonathan qui écrivait ça à Iana. Une note de 4 pages a également été retrouvée sur l'ordinateur d'Iana, suggérant que Jonathan et elle étaient bel et bien en couple et qu'ils avaient bel et bien des rapports intimes. Dans cette note, Iana criait son amour pour son oncle et elle exprimait son désir de s'enfuir avec lui pour former une petite famille avec leur enfant. Et, moment important, très important du procès, les procureurs ont appelé à la barre leur témoin vedette, un informateur de la police du nom de Damian Hatch. Il avait été incarcéré à la prison du comté de Duval, la même où était emprisonné Jonathan. Étant donné que Jonathan, souvenez-vous, avait déjà avoué son crime à son frère, les policiers ont pensé que peut-être qu'il allait à nouveau avouer son crime. Ils avaient donc demandé à deux de ses co-détenus, Damian et son cousin, de lui parler du meurtre d'Iana dans l'espoir d'obtenir des aveux de sa part. Et comme ils l'espéraient, Jonathan a une nouvelle fois avoué son crime. Et le cousin de Damian, qui est décédé entre-temps, avait sur lui, au moment des aveux, un micro que la police lui avait remis. Il avait donc enregistré leur discussion. Et la discussion entre les trois hommes a duré environ 2 heures. Et l'enregistrement des aveux de Jonathan a été diffusé lors du procès. Il a expliqué qu'il avait eu des rapports intimes avec elle, qu'elle était tombée enceinte. Et comme il ne voulait pas l'enfant, parce qu'il ne voulait pas perdre sa femme et briser sa famille, eh bien, il s'était tout simplement débarrassé d'elle. Et cerise sur le gâteau, il leur a aussi expliqué qu'il savait qu'entre le moment où il allait jeter son corps et celui où la police allait commencer à le chercher, eh bien, il serait déjà probablement en décomposition et recouvert d'une montagne d'ordures, ce qui rendrait leur travail extrêmement compliqué. Et qu'ainsi, il serait pratiquement impossible pour les enquêteurs, si jamais ils remontaient à lui, de retrouver le corps de la jeune fille. Il leur a ensuite expliqué qu'il en connaissait un rayon sur le processus de décomposition, puisque sa mère avait travaillé dans une morgue. Puis il a expliqué avoir tout avoué à son frère dans la foulée. Et suite à la diffusion de cet enregistrement accablant, les avocats de Jonathan ont tenté le tout pour le tout et ont suggéré que Damian avait peut-être menacé Jonathan juste avant le début de l'enregistrement afin d'obtenir de faux aveux. Et rebelote, pendant la plaidoirie finale, la défense a expliqué que les procureurs n'ont pas pu prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que Jonathan avait bien assassiné Iyana, ni même qu'elle était morte, parce qu'on n'a pas retrouvé le corps. Et après environ une heure et demie de délibération, le jury a pris une décision unanime. Ils ont reconnu Jonathan coupable du meurtre d'Iyana, mais il a eu de la chance puisqu'il a seulement été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Après le verdict, la famille d'Iyana s'est exprimée. Les membres de la famille ont dit que qu'il soit condamné à mort ou à la prison à vie, ça ne faisait aucune différence pour eux puisque sa mort ne ramènera jamais Iyana. Ils ont affirmé qu'ils étaient simplement satisfaits que ce monstre ne soit plus dans les rues et qu'ils étaient ainsi rassurés de savoir qu'il ne ferait plus aucune autre victime. Et le procureur a déclaré que, malheureusement, sans corps, la famille ne pourra jamais faire son deuil et que c'est là une blessure qui restera à jamais ouverte. Jonathan a littéralement brisé non pas une vie, mais deux vies. C'est un avenir brillant qui attendait Iyana, elle avait toute la vie devant elle, son bébé aussi. C'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.